Black Power, histoire et musique du peuple afro-américain, deuxième épisode, l'entre-deux-guerres. Le 18 décembre 1865, le 13e amendement de la Constitution des États-Unis entre en vigueur, abolissant l'esclavage. 4 500 000 Noirs américains sont affranchis. La guerre de sécession est alors terminée, mais tout reste à reconstruire, autant au niveau politique qu'économique. Le Nord se porte bien et se trouve en pleine expansion industrielle grâce à la guerre et au développement du réseau ferroviaire. Mais le Sud, lui, plonge dans le chaos social. Famine, épidémie sévissent pendant que les affranchis se retrouvent sans emploi face à leurs anciens maîtres privés du système de servitude et sûrement pas prêts à les accueillir en tant que concitoyens. La situation devient rapidement très difficile pour les Noirs du Sud. Un climat de terreur y règne, provoqué par les sudistes qui redoutent une révolte vengeresse des anciens esclaves. Assassinats et émeutes s'enchaînent, le Ku Klux Klan est fondé dans la nuit du 24 au 25 mai 1865 par 6 jeunes officiers sudistes, et l'amnistie générale accordée par Lincoln entraîne la reprise en main des affaires par l'élite du Sud. Le Congrès voit les gains de la victoire s'évanouir. Mais les abolitionnistes ne furent pas les seuls à vouloir changer cette situation. Le Parti républicain attendait impatiemment le vote noir pour assouvir sa position nationale, tandis que les industriels craignent un retour au système agraire. Pour préparer la vie de ces hommes libérés de la servitude, Lincoln avait créé en 1865 le Bureau des réfugiés, des affranchis et des terres abandonnées. Pendant 7 ans, ce bureau distribua des milliers de rations alimentaires, mit en place un bon nombre d'écoles, veilla à la rédaction de contrats de travail et assura les premiers soins médicaux malgré l'hostilité raciste et un budget insuffisant. Dans ce contexte, Charles Sumner et Thaddeus Stevens, deux grands défenseurs des droits civiques des Afro-Américains, incitèrent le Congrès à exiger des États du Sud la ratification du 14e amendement, qui accorde à tous les Américains la pleine citoyenneté, ainsi que de prêter allégeance au Nord pour avoir accès aux urnes. Même si beaucoup partirent vers les villes, la majorité d'affranchis resta en campagne, attendant la promesse du gouvernement, 40 acres et une mule. La redistribution des terres commença en Caroline du Sud et en Floride, mais le nouveau président Johnson amnistia les rebelles qui récupérèrent les terres louées ou vendues. Il obligea donc indirectement les Noirs à retravailler avec leurs anciens maîtres.
But I won't be blue always. Sun's gonna shine my back door someday. I'm gonna
L'établissement de la suprématie blanche était de nouveau en marche. Le Ku Klux Klan en était la facette la plus inhumaine. Leurs idées étaient conçues à travers une interprétation très particulière de la Bible et par les doctrines raciales et anthropologiques du 19e siècle. Ainsi, ils refusaient d'accorder la moindre dignité aux Afro-Américains et se sont rendus responsables de lynchages, de bûchers, de castrations, d'incendies de maisons, d'éventration de femmes enceintes ou bien d'assassinat de blancs qui côtoyaient ou instruisaient les anciens esclaves. Ils réussirent aussi à être influents politiquement, en intimidant les électeurs et en éliminant des politiques. En 1871, The Klan Act fut voté au Congrès pour abolir l'organisation. Mais ce n'est qu'en 1877 qu'elle disparut véritablement, avant de refaire surface dans les années 1915. Les tensions Nord-Sud se calmèrent lorsqu'en 1876, le républicain Hayes fut élu à la présidence des États-Unis. Pour remporter cette élection très serrée, le parti républicain promit aux États du Sud le retrait des troupes fédérales et de solides subventions, puis interdit l'usage de la force armée pour s'assurer le bon déroulement des élections. 2 ans plus tard, les promesses furent tenues et les affranchis se retrouvèrent seuls. La reconstruction fut un échec.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high.
Malgré les 14e et 15e amendements, les Blancs utilisaient la violence, menaçaient pour que les Noirs n'aillent pas voter. Mais ce fut insuffisant. Ils développèrent alors des techniques variées qui se perpétueront jusqu'à l'époque de Martin Luther King. Comme le déplacement du lieu de vote au dernier moment, ou bien la fraude lors du décompte des voix. Ils exigèrent aussi des conditions particulières, n'avoir jamais été coupable d'un larcin, avoir acquitté un impôt particulier, savoir lire et écrire, pouvoir interpréter un article de la Constitution. Ce genre d'exigence disqualifiait beaucoup de Noirs, mais aussi beaucoup de Blancs, qui commençaient donc à se méfier des plus riches et de leurs intérêts.
You gonna hide your way home, take to the sky.
De plus, beaucoup avaient abandonné leurs terres à cause de la chute des prix, des impôts, des taux d'intérêt et du coût des transports. Un ressentiment monta envers les riches propriétaires et le Parti démocrate, représentant de la nouvelle classe dominante. Une collaboration avait même débuté entre Noirs et Blancs, dans des associations agraires ou par le soutien du vote noir. Mais cela ne devait pas durer pour la bourgeoisie sudiste. Les composantes psychologiques du racisme se réveillèrent pour semer inquiétude et division. Rapidement, les Blancs pauvres et ignorants se retournèrent contre les Noirs, effrayés à l'idée que ces derniers occupent les emplois, et réclamèrent que le droit de vote dépendît de la couleur de peau, et non plus du niveau d'argent ou d'instruction. La clause du grand-père fut alors adoptée pour barrer la route aux Afro-Américains. Cette clause ne donnait le droit de vote qu'à ceux dont le père ou le grand-père étaient électeurs en 1867. En Louisiane, le nombre d'électeurs noirs passa alors de 130 344 en 1896 à 5 320 en 1900. Il était facile de faire sentir le rapport de domination durant l'esclavage. Mais maintenant que les Noirs pouvaient être instruits, voter, s'enrichir, le rapport était différent. Pour s'assurer d'une main-d'œuvre bon marché et maintenir la soumission d'un peuple méprisé, la ségrégation fut imposée par la violence et la loi. Le Sud fut aidé à 2 reprises par la Cour suprême. En 1873, elle déclara qu'il existe 2 citoyennetés, une fédérale et une régionale, et que le 14e amendement ne défend que la première. 10 ans plus tard, les juges interdisent aux États de pratiquer la discrimination raciale, mais pas aux individus. Ainsi, en 1896, l'arrêt Plessis contre Ferguson met en place la doctrine « séparés mais égaux ». Au tournant du siècle, les lois Jim Crow, lois ségrégationnistes, règnent dans le Sud. La relation d'égalité est complètement cassée en vue d'inculquer au peuple noir un sentiment d'infériorité. Et le nom de Jim Crow n'est pas choisi au hasard. Il provient d'un personnage très connu du public blanc raciste. Au début du 19e siècle, les minstrel shows déferlent dans tout le pays. En 1827, George Washington Dixon se maquille en noir et se donne en spectacle sous les traits d'un esclave, imitant vulgairement les chants des plantations. Ces scènes, se prétendant humoristiques, conquissent le public blanc de l'époque. Un an plus tard, la chanson Jim Crow est découverte par le public. Le minstrel Thomas Daly Rice peint une caricature grotesque d'un garçon d'écurie boiteux. Ce morceau sinistrement célèbre reste synonyme de raciste. En 1843, poussant le cynisme toujours plus loin, toute une mise en scène est faite par la troupe des Virginia Minstrels. Ils se maquillent exagérément, portent des accessoires tels que des os primitifs ou des instruments exotiques, dansent maladroitement et reproduisent une version abâtardie de la musique noire. Leur pièce rencontre le succès auprès du public new-yorkais. La mode est lancée et pour accéder au monde du spectacle, un bon nombre d'artistes noirs se lancent dans ces shows. Mais leur programme est d'une qualité musicale bien supérieure. Les instrumentistes sont virtuoses et l'humour propose un autre registre. Ils ne tombent pas dans l'autodérision, très attendue des auditeurs blancs, et font plutôt appel à un comique de situation. À travers les minstrel shows, les Afro-Américains commencent à partager leur musique avec le public blanc. Même si un bon nombre d'artistes noirs s'étaient déjà produits sur scène, ces derniers ne présentaient qu'un répertoire classique occidental. Mais dès 1867, les étudiants de la Fisk University font connaître les Negro Spirituals au public blanc. L'initiative vient de l'administrateur de l'université, John Udgen. Il demande à George L. White, professeur blanc, de consacrer ses heures de loisirs à enseigner la musique. Celui-ci donna un enseignement musical complet aux étudiants particulièrement doués et les laissait chanter leur propre musique. Le premier concert fut très bien accueilli par le public de Nashville. White eut alors l'idée de partir en tournée avec la chorale pour financer l'agrandissement de l'université, qui connaissait d'incessantes difficultés financières. Quelques incendies décourageants eurent lieu, mais White était décidé. Il donne le nom accrocheur de Fisk Jubilee Singers à ses chanteurs, en référence à l'année de jubilé qui verrait l'abolition de l'esclavage. En 1872, le World Peace Jubilee à Boston les rend célèbres. Ils commencent alors à tourner dans les États-Unis, puis en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse, devant les têtes couronnées d'Europe. En 7 ans, ils réussirent à récolter 150 000 dollars pour l'université, somme conséquente pour l'époque. La pratique s'étend vers plusieurs universités et se perpétue encore aujourd'hui. Le ton donné lors de ces concerts était bien différent des minstrel shows. Il n'était pas question d'y placer des éléments comiques, des danses ou des airs à la mode. Les chanteurs étaient très bien vêtus et alignés. Ces chants a cappella étaient arrangés à la manière de la musique occidentale et les voix étaient retenues. Aucune once d'africanisme n'était visible pour ne pas choquer le public. Certains y voient aujourd'hui un décalage entre les pionniers de cette musique qui ont lutté et prié sans retenue et la sophistication harmonique, le contrôle des voix, l'attitude scénique de ces chœurs. Durant cette période, les Negro Spirituals vont petit à petit laisser place aux hymnes de gospel durant les offices. En effet, dès l'année 1850, un mouvement revivaliste se répand dans les églises blanches urbaines essentiellement, puis dans les églises noires. Ce mouvement rassemble alors des foules entières composées de prêcheurs itinérants, de croyants et de chorales. L'atmosphère y est très différente des camp meetings du XVIIIe siècle. Le répertoire classique du protestantisme blanc se transforme en un mélange d'hymnes traditionnels et de mélodies semblables aux blouettes des cabarets et des music-halls. Cette formule connut un succès auprès des croyants réunis durant les célébrations collectives. Ainsi, le gospel va se propager dans les communautés noires et blanches et va bouleverser l'approche des évangiles par la puissance musicale qu'il génère. It's a true foundation. I'm lifting up a bloodstain, banner for the Lord. I'll never get tired working on the building. I'm going to heaven En 1875, les duettistes Dwight Moody et Ira Shankey publient leur recueil Gospel Hymns and Sacred Songs. Cette étape décisive allie les évangiles et les airs profanes à la mode. Cette période voit aussi apparaître un grand nombre de sectes protestantes noires, dont les pentecôtistes, avec le révérend Charles Mason, qui fonde l'église sanctifiée à Memphis en 1894, surnommée The Church of God in Christ en 1897. Ces adeptes consacrent leur dévotion à l'œuvre du Saint-Esprit et fondent leur vision sur les émotions, l'enthousiasme et la ferveur. Ces nouveaux comportements ont un impact direct sur l'évolution musicale au sein du temple. Les prédicateurs encouragent les fidèles à livrer leur âme et leur foi sans retenue ni pudeur. S'installe alors une familiarité avec le preacher. Le culte est revitalisé par les danses, la transe des corps et les chants dorénavant accompagnés d'instruments tels que l'orgue, l'harmonium, les instruments à cordes, mais aussi les claquements de mains et les mouvements du corps. Les cérémonies renouent avec l'africanisme, tel un retour aux sources. Les sources d'évocation changent aussi et sont plus tournées vers le Nouveau Testament qu'avant. Les actions et les différentes étapes de la vie de Jésus sont répétées, son message de consolation et d'espoir est plus appelé, car il conseille les hommes et les écoute. Avec lui, les croyants sentent que tout devient possible. La liberté, le salut, le repos, la victoire sur le péché et la mort, et bien sûr l'amour. Mais les nouvelles compositions des musiciens de paroisse s'appuient sur la trace des spirituals, déjà solidement ancrés dans la mémoire collective. Et certains textes chantés durant l'esclavage sont couramment repris, parfois légèrement modifiés. Charles Albert Tindley, né de parents d'esclaves et prédicateur d'une église méthodiste de Philadelphie, va écrire dès 1901 une musique imprégnée de blues, de spirituals et d'hymnes traditionnels, tout en y associant une culture noire américaine contemporaine. Le symbolisme des spirituals reste très présent dans les hymnes de gospel. On y retrouve un sentiment de révolte, de dénonciation sociale, mais la forme, l'expressivité diffèrent. Cette symbolique est d'autant plus importante durant cette période que les lois Jim Crow règnent dans le sud des États-Unis. Les pancartes « white and colored » s'inscrivent devant chaque établissement, école, restaurant, hôtel, parc, terrain de sport, bibliothèque, magasin, et il sera par exemple courant de lire sur des pancartes « les chiens et les nègres ne sont pas autorisés dans ce lieu ». Dans les autobus, les noirs se retrouvent entassés à l'arrière, et dans les trains, des wagons leur sont réservés. Mais les meilleurs services sont destinés uniquement aux blancs. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. Après l'échec de la reconstruction, des milliers de Noirs fuient vers le nord ou dans les villes. Les débuts de l'industrialisation dans le sud offrent des emplois, mais les jobs les plus sales et les moins rémunérés sont occupés par des Afro-Américains. Sans compter que la ségrégation touche aussi les syndicats qui ne veulent plus défendre les Noirs. L'urbanisation massive entraîne aussi le parquage des gens de couleur dans des ghettos insalubres, où pauvreté, maladie, mortalité infantile et délinquance se multiplient. La ségrégation dans les quartiers fait fuir les blancs de Harlem, quartier abritant alors la classe moyenne, et ce quartier devient rapidement un ghetto. Certains intellectuels noirs, comme John Hoop, professeur à l'université d'Atlanta, pensent que leur salut doit passer par la constitution d'une élite noire d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs. C'est le début d'une bourgeoisie, d'une intelligentsia qui se développe dans les églises, les associations et les écoles. Beaucoup d'associations, dont la franc-maçonnerie noire, furent à l'origine de banques, de compagnies d'assurance, d'hôtels, de magasins ou même de journaux. Ces sociétés voulurent s'adresser à une clientèle de couleur, servie par des noirs, et étaient donc tenues à l'écart de la croissance économique. D'autres voix s'élevèrent dans le rang des intellectuels, dont celle de Booker Taliaferro Washington. Il est le plus célèbre des penseurs noirs de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Il crée en 1881, dans l'Alabama, un institut pour les noirs visant à leur apprendre un métier pour devenir ouvriers qualifiés, se constituer un capital, acheter des terres et devenir leur propre patron. Il tente d'inculquer des valeurs telles que la fierté, l'épargne et le goût du travail manuel, en formant ainsi des jeunes gens polis et acquis au mode de fonctionnement de la société américaine. Washington pense désarmer l'hostilité blanche. Il recommande également en ce sens aux Noirs de rester à la campagne. Mais il ne dérange pas excessivement les Blancs, puisqu'il donne son aval à la ségrégation raciale en ne la remettant pas directement en cause. Washington se rapproche des présidents américains, de McKinley jusqu'à Theodore Roosevelt, et est même consulté par l'administration quand des fonctionnaires noirs doivent être nommés ou des subventions attribuées aux églises et écoles noires. Les Blancs ne prêtent pas attention à la volonté d'obtenir des droits civiques et une égalité raciale. Et Washington se cantonne à soutenir les maigres projets engagés contre la ségrégation, en recrutant des avocats et en récoltant des fonds. Ces positions furent, de ce fait, critiquées par de nombreux Noirs dans le Nord, au premier rang desquels on retrouve William Edward Dubois, pour qui Washington est un passéiste. Titulaire d'un doctorat de philosophie obtenu à Harvard, Dubois représente le prototype de l'intellectuel protestataire aux manières quelque peu aristocratiques. Il attaque le capitalisme militant de Washington qui conduit selon lui à l'acceptation de l'infériorité de la race noire et à la soumission. Ses revendications sont les suivantes: droit de vote, fin de la discrimination raciale, droit à l'éducation et application stricte de la Constitution. Il crée le mouvement dit de Niagara en 1905, mais ne reçoit que peu d'écho et cesse de le réunir en 1908. En 1906, à Atlanta et en 1908 à Springfield, ont lieu des massacres et émeutes raciales. Face à ces événements, des intellectuels, des responsables d'œuvres sociales et des religions fondent en 1910 la National Association for the Advancement of Colored People, et Dubois est le seul noir parmi les responsables. L'association proteste contre le lynchage, la discrimination raciale et pour l'application stricte des 14e et 15e amendements. En 1915, la Cour suprême condamne la clause du grand-père dans le Maryland et l'Oklahoma et déclare en 1917 inconstitutionnelle la ségrégation par quartier pratiquée à Louisville. Ces mesures ne sont pas nationales, mais témoignent d'une possible influence des associations protestataires. Par ailleurs, se crée en 1911 la National Urban League, dont le but est d'aider les nouveaux arrivants noirs dans les villes à s'adapter aux milieux urbains. Ces mouvements contestataires font renaître ardemment la bataille pour les droits civiques. Et en parallèle, deux styles musicaux viennent aussi bousculer l'évolution de la musique américaine. Le premier, le blues, fut vite comparé à la musique du diable. Il prend ses racines dans les hollers et les work songs des esclaves, mais aussi dans les spirituals exprimant la douleur. Ses origines sont indéfinissables. Un vieux violoniste de la Nouvelle-Orléans disait « Le blues, il n'y a pas de premier blues, le blues a toujours existé. » Ces chants d'errance douloureuse, colportés par des musiciens itinérants, des fermiers solitaires, des détenus ou des ouvriers, faisaient écho à l'art du griot africain. Ils expriment généralement la réaction personnelle du chanteur devant une situation. Ils la subliment en quelque sorte et rend sa vie plus supportable. Les sujets vont de l'amour déçu, trahi, aux problèmes économiques, en passant par les insinuations érotiques ou les dénonciations raciales. C'est une musique très personnelle, destinée à trouver sa forme durant l'interprétation, dans laquelle la mélodie, souvent variée, et l'improvisation alternent de façon à rappeler l'appel-réponse des chants d'esclaves. Le blues naît dans le delta du Mississippi, puis s'est propagé à travers les États grâce au mouvement migratoire. Henry Sloan en est l'une des premières figures connues par les musicologues. Il n'a laissé aucun enregistrement de sa musique, mais aurait formé Charlie Payton, grande figure du delta blues, qui laissera un héritage très influent sur les générations suivantes. Dans son autobiographie, William Christopher Handy, musicien et pionnier du jazz, écrit quelques mots sur sa rencontre avec Henry Sloan et fit enregistrer plus tard la musique qu'il l'entendit jouer à ce moment. Un nègre maigre et lâche avait commencé à prendre une guitare à côté de moi pendant que je dormais. Ses vêtements étaient déchirés, ses pieds passaient à travers ses chaussures. Son visage portait sur lui la tristesse de l'âge. Il commença à jouer, en pressant un couteau sur les cordes de la guitare. L'effet a été inoubliable. le chanteur répéta la ligne « Going where the thousand cross the dog » trois fois, s'accompagnant à la guitare avec la musique la plus étrange que je n'ai jamais entendue. L'esclavage avait créé des communautés de Noirs distinctes avec leur propre culture. Les compositeurs se créaient un style particulier, exprimant leur caractère propre et n'étant donc pas destinés à être entendus et comprises par les Blancs. L'apparition du ragtime fut dès son origine associée au piano. Malgré que les musiciens manifestaient une prédilection pour cet instrument, ils avaient peu de contact avec car son prix restait trop élevé. Certaines familles achetaient des petits orgues, des orgues hystés ou des harmoniums en semi-location, même si leur budget ne le permettait pas. Booker Washington évoque un souvenir révélateur de la situation dans son autobiographie. « Je me souviens d'être allé une fois dîner dans une case en Alabama. La famille comptait 4 membres et il n'y avait qu'une fourchette pour 5. Naturellement, j'eus un instant de gêne. À l'autre bout de la pièce, il y avait un orgue de $60 qu'on payait, me dit-on, par mensualité. » Naturellement, Washington fut indigné que d'anciens esclaves puissent manquer de sens pratique à ce point. En ce sens, il n'avait pas tort. Mais la musique faisait partie du nécessaire pour les anciens esclaves. Pour eux, l'une des premières façons de manifester leur indépendance fut d'acheter les instruments de musique dont ils avaient tant rêvé du temps de l'esclavage. Ainsi, les enfants apprenaient sur l'orgue familial, comme Hugh Big Blake ou William Christopher Handy. Les premiers joueurs de rag étaient des vagabonds anonymes du Mississippi, qui jouaient dans des saloons, des honky-tonks ou même des bistrots de porc pour de maigres cachets, voire juste pour des pourboires. Le musicien devait remplacer tout un orchestre et jouer de la musique dansante. À la main gauche, il exécutait la basse régulière de l'orchestre, et à la main droite, des mélodies syncopées, modifiées et enrichies. Ce style découle, entre autres, de la musique de danse pratiquée chez les esclaves, avec leurs maîtres, au son du violon, du banjo et des claquements de mains, dont l'une des plus populaires était le cakewalk. À partir de 1897, les pianistes-compositeurs noirs commencent à trouver des éditeurs et purent produire avec quelques blancs un nombre considérable d'œuvres de qualité, avant que New York s'empare du marché avec des œuvres médiocres à partir des années 1910. Cette musique connaîtra un fort succès, provoquant excitation et autres émotions violentes alors jamais ressenties dans la musique américaine. L'un d'eux, Scott Joplin, surnommé le père du ragtime, va surpasser les autres grâce à ses compositions. Né le 24 novembre 1868 dans une famille affranchie, Scott découvre le piano chez son voisin qui remarque très vite ses dons. Son père économise alors pour lui acheter un piano et un voisin, professeur de piano d'origine allemande et très intrigué, lui offrira des cours. Il lui donne une solide technique et un apprentissage complet de l'harmonie et du solfège. Et à 14 ans, Scott Joplin part jouer dans les bordels du Sud. Il y enrichit sa connaissance de la musique et se produit avec différents ensembles. En 1897, il compose Maple Leaf Rag qui sera édité 2 ans plus tard grâce à John Stewell Stark. Le morceau se vend à 75 000 exemplaires et devient un tube. Débarrassé des soucis matériels et financiers, il se consacrera entièrement à la composition et à l'enseignement. Mais l'échec de son opéra, Trimonisha, le fera sombrer dans la dépression et la folie, avant qu'il meure le 1er avril 1907. Différentes écoles de ragtime se sont développées entre-temps, mais on retiendra en particulier James Scott, Joseph Lamb, Hugh B. Blake, et Jelly Roll Morton qui jouera un rôle charnière dans le jazz de la Nouvelle-Orléans. À avec l'apparition du blues et du ragtime, le jazz commence à se faire entendre dans la Nouvelle-Orléans, tandis que la Première Guerre mondiale éclate en Europe.